Radio Barque, un invité sur Grand Sud FM pour mieux connaître ceux qui font l'actualité régionale.
Vous écoutez Radio
Barque. La musique ici, elle est super.
Ce jingle qui surprendra peut-être nos auditeurs indique que notre invité aujourd'hui est Esteve Weils. Bonjour.
Bonjour.
Auteur d'un livre qui s'appelle Radio Libre en pays catalan, d'où le document sonore. Et nous allons parler de ce livre donc qui est sorti très très récemment. Alors, Esteve Weils, on va voir un petit peu votre parcours, ce que vous avez fait. Forcément, vous êtes un homme de radio, vous avez travaillé dans un certain nombre de radios. Mais, première chose, ce livre, alors qui est un énorme bouquin de plus de 600 pages, un travail colossal, j'imagine.
On peut compter en kilos aussi, on peut dire, il fait 1 kg 2, 1 kg 3.
Voilà, qui a dû vous prendre un certain temps. Première chose, lorsque vous avez décidé de l'écrire, vous l'avez écrit, bien entendu, vous êtes allé trouver un éditeur catalan.
Oui, basé à Pézilla-la-Rivière, qui imprime à Saint-Estève, à quelques pas de Perpignan. Ce qui n'empêche pas que ce livre de 668 pages
pour
est par exemple disponible chez Mola, M-O-2-L-A-T, à Bordeaux, par exemple. Et dans tout plein de circuits de diffusion en France et un petit peu dans la francophonie aussi, bien qu'imprimé, effectivement, comme vous le dites,
en
pays catalan.
À côté de Perpignan.
Absolument.
On y reviendra à la fin pour dire aux gens où est-ce qu'ils peuvent s'adresser pour, une fois qu'ils le connaîtront un petit peu plus. Mais alors maintenant, première chose, vous y indiquez, ou vous y évoquez, une période historique qui date de 40 et quelques années, les années fin 70, début 80. À quel moment vous vient, je dirais presque, le besoin d'écrire ce bouquin ?
J'ai déménagé en 2017 et à chaque fois qu'on fait un déménagement dans sa vie, je n'ai pas changé de ville, j'habitais à Elne, entre Perpignan et Argelès, et j'ai acheté une maison, ce qui fait que j'ai changé de maison, donc j'ai fait 300-400 mètres. Et comme vous le savez...
Ah, vous êtes resté à Elne?
Oui, c'est un déménagement intramuros à Elne. Mais tout déménagement, vous savez, c'est aussi un déménagement un petit peu de son esprit.
Oui, bien sûr.
En ce sens qu'on retrouve des objets, on en perd aussi, d'ailleurs, des objets quand on déménage. Mais donc, je suis retombé sur un vieux cahier, mon cahier de radio ado, qui est un cahier format, je sais pas, les petits cahiers d'école, quoi, dans lequel j'avais très patiemment, de l'âge de 11 ans peut-être jusqu'à l'âge de 14 ans, quelque chose comme ça, peut-être de 11 à 13 je pense, j'avais collecté des documents, des autocollants, des fiches radio parues dans la presse, des observations personnelles sur telle ou telle radio que j'avais pu entendre quand j'étais
gamin. Ah oui, alors ça c'était la naissance de vos archives personnelles.
Voilà, j'ai dû démarrer ça à 10 ans. En 1981, ou à 9 ans et demi. À l'époque, j'habitais à Collioure. Collioure, en bord de mer. Le bord de la mer, ça permet d'écouter la radio, puisque techniquement, on capte bien la radio en général au bord de la mer, puisque la mer porte les ondes.
Propage les ondes plus facilement.
Ce qui fait que, étant à Collioure, j'ai pu capter assez souvent toutes les radios de Perpignan, déjà, à 30 km de Perpignan, mais aussi pas mal de radios de Narbonne, de Toulon, de Martigues, de...
Oui, qui traversait la mer.
Marseille.
Qui traversait la Méditerranée.
D'Italie, parfois, de Corse aussi. Ce qui fait que j'ai pu avoir comme ça accès, sur mon petit poste de radio à tout un monde qui venait à moi, on va dire ça comme ça.
Et qui vous faisait rêver à l'époque?
Oui, largement. Surtout que l'époque de l'éclosion des radios qu'on appelait Radio Libre, 1981-82, c'était qu'on pouvait se poster sur la FM un mardi, entendre telle ou telle radio, et puis le mercredi, on ne la captait déjà plus, par exemple. Ou alors on la captait mieux. Ou alors elle avait changé de fréquence. C'était une époque très curieuse comme ça d'hésitation, de création, de tergiversation. C'est l'adolescence de la radio, en fin de compte. Et moi-même, à l'époque, étant, on va dire, préadolescent, c'est comme ça qu'on dit non quand on a 11, 12 ans.
Peut-être.
On appelle ça comme ça aujourd'hui. À l'époque, on ne disait pas tout ça, mais ça se dit maintenant aujourd'hui, les préadolescents. Je me retrouve à collecter tout ça sur un cahier d'école, que j'appelle mon cahier radio, parce qu'il y avait marqué radio dessus. Et donc, X années après, je sais pas si c'est 30 ans après, je déménage donc, je change de maison, et je retombe sur le cahier radio, et je me dis, tiens, c'est pas mal ce truc-là. En tout cas, il y avait un certain esprit de collecte, un certain esprit presque, je dirais pas une rigueur scientifique, faut pas pousser.
Mais une vision de l'avenir?
Non. Mais
c'était,
non.
C'était le présent. Vous viviez le présent. Vous aviez quel âge, Steph Weiss, à l'époque?
10 ans, 11 ans, de 10 à 12 à peu près.
Préado, quoi.
Voilà, voilà. Peut-être 10 à 13, allez, maxi. Et je me retrouve donc X années après, face à ce cahier, à me dire, tiens, c'était quand même assez organisé comme, comme cahier. Le cahier était ville par ville en France. Il y avait,
Donc, c'était un bon document de démarrage.
Oui. Puis dans ma tête aussi, il y avait beaucoup de choses que j'avais en tête.
Entre temps, forcément, vous aviez aussi bourlingué dans des radios, seulement comme auditeur.
Oui, parce que je démarre ensuite en 1983, tout gamin, à Radio Arrels, radio catalanophone, à Canoës, à côté de Perpignan. Et puis après, en 1991, je commence par un remplacement en avril 1991 à Radio France Roussillon. Et après, dès septembre, je bascule sur la grille. Et ce qui fait que, moi, tout le temps, je résume ça en me disant, voilà, c'est pas quand j'avais 20 ans, je payais des impôts. Voilà. C'est une manière toute bête.
C'était le critère.
Oui, parce que ça m'a vraiment, c'est un autre sujet, mais ça m'a vraiment différencié de le reste de mes copains, copines. C'est que eux, ils en étaient encore à être à Montpellier à faire de vagues études.
Ouais.
Puisque ils repiquaient la première année de psycho, après ils faisaient anglais, après ils faisaient machin. Réellement, hein, c'est un truc, ce sont des faits réels, hein, tout ça. Et le fait est que j'ai beaucoup de copains, copines à moi qui ont basculé dans le monde du travail à 28 ans. au fil de au cours
vous,
de...
vous étiez précoce alors.
Oui, puis j'étais en même temps à l'université, j'allais aussi à l'université en même temps, etc. J'étais en maîtrise de langue, etc. J'étais en même temps universitaire aussi, tout en étant devenu pro de la radio, mais avec cette mémoire fraîche et vive, je pense, de ce qu'avaient été les embryons de la radio. De la Radio Libre à Radio France Roussillon.
Oui, alors c'était une autre dimension et sur laquelle on va revenir un peu plus en détail. Je fais une petite précision. Oui. Les auditeurs peuvent s'en douter. Moi-même, j'ai vécu ce genre d'expérience-là, mais à un autre âge et d'une manière probablement un peu différente. Alors j'essaie de suivre vous, quelle est votre expérience à vous, mais cette radio dans laquelle on est aujourd'hui, Grand Sud FM, est issue d'une radio qui est née en mai 81, donc qui était en plein dans cette période-là.
Ce qui fait que vous qui nous parlez ce matin à l'antenne, vous, Monsieur Jules, vous avez connu la radio et inventé une radio,
si on peut dire,
sous Mitterrand, mais même un petit peu avant, sous Giscard. Pirate, on va dire.
Ce qu'on appelait pompeusement pirate à l'époque. Voilà. Effectivement.
Avant la loi, avant tout ça.
Voilà. Donc j'ai un vécu qui est un petit peu différent du vôtre. Mais revenons à votre livre, Steph Weiss. Donc, on sait ce qui vous a donné envie de le faire. Alors, entre-temps, vous étiez passé par la radio, vous étiez devenu un professionnel de la radio. Est-ce que ça a changé votre optique et est-ce que ça a un petit peu bouleversé vos rêves d'adolescent, de préadolescent?
Oui, un peu. Lorsque je rentre à Radio France Roussillon en 1991, je suis à la fois exalté parce qu'il y a de l'audience, parce qu'il y a des moyens, parce que le son est bon, parce qu'il y a une certaine clarté. On te dit, tiens, tu es animateur radio, du coup tu prends un magnétophone Nagra avec un très bon son.
Ah oui, on avait les moyens à Radio France.
Tu prends la voiture de la radio. Ah bon, il y a une voiture à la radio. Oui, il y a une voiture à la radio, il y en a même quatre. Ah d'accord, très bien. Et je peux aller où tu veux. Ah d'accord, donc j'allais où je voulais. Bon, certes, il y a quand même quelques critères, mais le fait qu'il y ait comme ça, pléthore de moyens.
C'était un signe extérieur de richesse conséquent.
Qui était montré de par les logos apposés sur les véhicules. Mais parallèlement à ça,
Je précise, excusez-moi, que c'était pas du tout mon expérience à l'époque.
Je comprends bien.
Beaucoup plus pauvre.
Je comprends fort bien quand on vient de radio associative et qu'on se retrouve avec une station qui est certaine de vous rémunérer à la fin du mois avec des véhicules, des magnétophones, des rendez-vous qu'on prend évidemment au préalable.
Oui, c'est sérieux.
Mais parallèlement à ça, je suis, sans trop m'en rendre compte, je suis frustré parce que je ne faisais plus la technique, je ne faisais plus d'infos. Et je ne m'occupais plus des watts, des émetteurs, des antennes, de la fréquence machin à tel endroit.
La polyvalence à Radio France, ça n'existe pas.
Absolument.
C'est une chose que nous connaissons, que nous avons connue, nous, dans toutes les radios locales de France et de Navarre, probablement.
Moi, je venais d'une station où il fallait parfois passer le balai.
Absolument.
Ou si l'émetteur était en panne, il fallait appeler le 54 34 68, qui est le numéro de téléphone du technicien, qui était un réparateur télé. Oui, ça, le téléphone m'est resté, hein. Je vous le dis, c'est pas pour faire le malin, c'est pour vous dire que le téléphone m'est resté en tête, parce qu'il m'est arrivé assez souvent d'appeler le technicien, le réparateur de l'émetteur, alors que quand on est à Radio France, l'émetteur n'existe pas. Tellement c'est évident.
C'est abstrait.
Absolument. Et donc, pour moi, le passage de la radio associative à Radio France, c'était que la palette qui faisait de nous, je ne suis pas unique au monde, Dieu merci, pas plus que vous, mais quand on connaît toute la palette des activités d'une radio associative, entre s'occuper du logo, moi je me souviens avoir fait un logo pour Radio Arrels par exemple, qui c'est qui fait les autocollants, est-ce que ça va coûter moins cher à tel endroit, où est-ce qu'on va les mettre les autocollants?
Oui, c'était vraiment les débuts de ce qu'on vivait au quotidien.
La console de mixage, ah ben là il y a un potentiomètre, hein, pour régler le son qui crachouille un peu. Il faut mettre un coup de bombe, truc qui souffle. c'est un peu comme en informatique, vous savez, quand il y a un problème, des fois, c'est une bombe aérosol qui envoie de l'air, comprimé. Bon, des choses comme ça qu'il fallait nettoyer la console. Enfin, mille et une choses, naturelles, même agréables parfois.
Ce qui est le naturel, et encore dans beaucoup de radios locales, aujourd'hui, on est très très polyvalent.
Bien sûr. Et rentrant à Radio France Roussillon, je me rends compte, s'il y a une ampoule qui est grillée, il y a quelqu'un qui va changer l'ampoule. Ah bon, ça existe. Et puis, la maintenance technique, c'est des gars de Béziers, ils venaient de Béziers, qui venaient réparer le matériel, qui venaient faire la maintenance du matériel, donc même avant même la panne, on anticipe la panne, c'est comme la médecine préventive, si vous voulez, c'est un peu pareil, on soignait le matériel avant qu'il ne tombe en panne, et puis il y avait quelqu'un à l'accueil par exemple, il y avait un accueil, donc il y avait une demoiselle, c'est souvent des femmes, qui assuraient l'accueil, le téléphone, la gestion ensuite des rendez-vous, enfin c'était pour moi...
comme aurait dit Charles Trenet, un jardin extraordinaire.
Absolument. Absolument. On peut discuter de la catalanité de Charles Trenet, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Mais on pourrait faire un débat. Était-il plus de l'ode ou des PO?
Ça, c'est un vaste débat.
C'est une question.
On l'entamera pas aujourd'hui, bon. Ça serait trop long.
On se reverra une prochaine fois pour parler de ça. On fera un match Perpignan-Narbonne sur Charles Trenet, si vous voulez.
Oui. Voilà. Mais votre expérience, donc, de Bleu Roussillon est un peu assez particulière.
Elle est mitigée.
Moi, de mon point de vue, ça m'amuse de vous entendre, parce que aujourd'hui, alors Grand Sud FM fait partie des radios qui émettent également sur la zone perpignanaise, quand on essaie d'exister parallèlement à une radio comme France Bleu Roussillon, on n'existe pas. On a l'impression qu'on est annihilé d'emblée.
C'est l'État. le monopole d'État exercé aujourd'hui par l'enseignement, par la Poste. Moi, je suis pas spécialement défenseur de l'école privée, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais c'est vrai qu'il y a un monopole d'État en France de l'enseignement, par exemple, dont on parle jamais.
Et d'ailleurs,
du réseau Orange, par exemple, par rapport à SFR et Bouygues.
On va y revenir parce que ça me semble intéressant dans votre analyse. Le sous-titre de votre livre, c'est « Du monopole privé au monopole privé ».
Oui, c'est une thèse.
C'est le sous-titre, ça résume un petit peu votre analyse.
Telle est ma thèse. À savoir qu'il y a 50 ans, pour faire de la radio, il fallait être l'État pour faire de la radio. De toute façon, même si c'était l'État décentralisé, il fallait être l'État. Ensuite, les radios libres apparaissent, puis elles se font racheter, pour la plupart, pas pour toutes, par des réseaux qui sont tous établis à Paris, hormis Nostalgie, Radio Nostalgie, qui est basée à Lyon,
mais qui est vite devenu parisien,
qui déménage à Paris en 85. Et donc, aujourd'hui, sur la bande FM, on a toute une série de stations. Peut-être pas la peine de les citer, mais elles sont rigoureusement toutes monopolistiques. C'est-à-dire qu'elles ont toutes une centaine ou 150 fréquences, par exemple. Donc, ce sont devenus des monopoles. On appelle ça des oligopoles. Je veux pas faire le malin, en vous donnant des mots comme ça, mais c'est ce qu'on appelle un oligopole. C'est-à-dire c'est plus qu'un monopole, en fait. C'est une espèce de d'hégémonie économique incontournable, représentée par des groupes de radio.
On va y revenir dans une seconde partie. On marque, Estève Weiss, une première pause.